Rai Al-Youm, écrit l'assassinat de l'ancien commandant en chef de la force rose, le général Qassem Soleimani, a eu lieu le 3 janvier 2020 dans la capitale irakienne, Bagdad. Les USA l'ont revendiqué, mais le site internet sioniste Netzif.net a commencé à publier au plus fort de la promesse de vengeance de l'Iran à en révéler de nouveaux détails. Trois équipes de forces spéciales américaines sont venues à l'aéroport de Bagdad à ce moment-là pour terminer la mission. Notons que des équipages américains ont survolé la zone depuis des recoins secrets de l'aéroport international de Bagdad en attendant le général Soleimani. Les commandos américains de ces équipes étaient déguisés en ouvriers de maintenance, tandis que d'autres se cachaient dans de vieux bâtiments et dans des voitures au bord de la route près de l'aéroport de Bagdad. Trois drones américains ont été utilisés dans l'assassinat du général Soleimani alors qu'il survolait la région, coïncidant avec l'atterrissage de l'avion transportant le commandant iranien en provenance de Damas. Il a déclaré que lorsque l'avion du commandant Soleimani s'est éloigné de la piste vers la partie fermée de l'aéroport, un agent déguisé en personnel au sol a ordonné à l'avion de s'arrêter sur la piste et lorsque le précieux passager est descendu de l'avion, il y avait des agents déguisés en bagagistes et il devait l'identifier immédiatement. Les trois équipes de tireurs d'élite étaient stationnées à une distance de 600 à 900 mètres de la zone cible sur la route de l'aéroport de Bagdad. L'un des tireurs d'élite avait des jumelles équipées d'une caméra qui était transmise directement à l'ambassade américaine à Bagdad où était stationné le commandant de la Delta Force américaine et l'équipe de soutien qui l'accompagnait. Soleimani est arrivé à l'aéroport international de Bagdad et pendant qu'une des deux voitures de son convoi partait, des tireurs d'élite américains les attendaient. Deux drones armés de missiles Hellfire ont survolé les deux voitures, dont celui du général Soleimani. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie de l'aéroport de Bagdad, les armes de snipers étaient braquées sur lui à l'endroit exact où il a été assassiné. À quoi ressemble le tout nouveau complot américain contre la Chine, dit Broken List. En effet, le dernier projet américain anti-chinois vise à détruire des usines de semi-conducteurs à Taïwan. Tout est parti d'une simple question. Comment empêcher la Chine d'attaquer Taïwan? Les mentors de l'US Army War College à Carlisle sont très lucides. Pour rendre Taïwan moins attrayant, il suffit de détruire ces entreprises de semi-conducteurs là-bas. L'article s'intitule « Broken List, le nid brisé, deterring China from invading Taiwan ». Empêcher la Chine d'envahir Taïwan et a été présenté en novembre de l'année dernière par deux chercheurs du Center for Military Studies, Jared M. McKinney et Peter Harris. L'idée est à prendre très au sérieux. L'US Army War College doit émerger cette brillante idée et l'un des think tanks les plus influents du monde militaire américain. Le collège est né autour de la caserne Carlisle, fondée en 1757. Depuis 1904, le centre forme l'élite militaire des États-Unis et des pays alliés. Les cours de l'US Army War College, qui ont vu passer des soldats américains, ont marqué l'histoire de l'armée américaine, des soldats comme George Patton, débarquement en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. William Westmoreland, le commandant des forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la guerre au Vietnam. Et Norman Schwarzkopf, Jr., le général qui a dirigé les forces de la coalition anti-Saddam pendant la première guerre du Golfe. Ces dernières années, le Carlisle College s'est également donné pour mission de former des organes militaires et de renseignements étrangers, y compris ISIS, les services secrets pakistanais. Dans le rapport publié par le collège, il est clairement indiqué que la destruction des usines de semi-conducteurs rend Taïwan peu attrayant pour la Chine. Bref, c'est une proposition folle. Détruire les usines de puces taïwanaises revient à mettre à genoux toute l'industrie mondiale des secteurs de l'informatique et des smartphones et high-tech au secteur automobile. Les répercussions seraient dévastatrices à l'échelle planétaire. Taïwan produit plus de 90% de toutes les puces fabriquées dans le monde. Voici ce qu'écrivent Mark Kinney et Harris. Pour commencer, les États-Unis et Taïwan devraient élaborer des plans pour une stratégie ciblée de la terre brûlée qui rendrait Taïwan non seulement peu attrayante, si jamais prise par la force, mais aussi très coûteuse à entretenir. Cela pourrait être fait plus efficacement en menaçant de détruire les installations appartenant à la Taïwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant de puces au monde et le plus grand fournisseur de Chine. Il reste à dire que Samsung, un allié des États-Unis basé en Corée du Sud, est la seule alternative pour des designs de pointe. Malgré les gigantesques efforts chinois pour une industrie des puces made in China, seulement 6% des semi-conducteurs utilisés en Chine ont été produits dans le pays en 2020. Lit-on dans l'analyse des pétillons cerveaux de l'US Army War College. Ces petits chercheurs ne savent peut-être pas que si Taiwan Semiconductor Manufacturing est détruite, les installations des États-Unis seront également hors ligne et il serait difficile pour les entreprises du monde entier de continuer à fonctionner normalement. Ce désastre à l'échelle planétaire signifierait que les industries de haute technologie de la Chine s'arrêteraient précisément au moment où la nation serait impliquée dans un effort de guerre massif. Même après la fin de la guerre formelle, les coûts économiques persisteraient pendant des années. Selon les deux chercheurs dissuadés, une invasion chinoise de Taïwan sans menacer impudemment une guerre entre grandes puissances est à la fois possible et nécessaire grâce à une dissuasion sur mesure qui va au-delà de la lutte pour Taïwan ou son abandon. Des bombardiers américains ont menacé la Russie. Les bombardiers stratégiques américains ont organisé une provocation sans précédent sur fond de rencontres entre des représentants de la Russie et de l'OTAN. Les États-Unis tentent de saboter les pourparlers entre la Russie et les responsables de l'OTAN qui doivent avoir lieu le 12 janvier à Genève, ainsi comme l'ont révélé les ressources de surveillance ouvertes de bombardiers nucléaires stratégiques B1B lancés ont été envoyés aux frontières orientales de la Russie, censé démontrer leur puissance dans le contexte des négociations à venir avec l'Alliance. En jugé par les données présentées, de bombardiers stratégiques américains envolés vers la région Indo-Pacifique. Cependant, les bombardiers n'ont pas été envoyés pour renforcer les bases militaires américaines ou pour faire tourner les forces. Et après avoir bouclé en cercle l'avion et retourné à une base aérienne aux États-Unis, qui indique également que le Pentagone se livre délibérément à de telles provocations avec manifestement l'intention de saboter les pourparlers entre l'OTAN et la Russie à Genève. La semaine prochaine, les bombardiers B1B lancés l'USAF effectueront une mission à leur retour de la France opérationnelle des bombardements à longue portée dans la région Indo-Pacifique, a tweeté @aircraftspots. On sait que les États-Unis et l'OTAN tentent d'exercer une pression militaire et psychologique globale sur la Russie. Cependant, comme l'a dit plus tôt le ministre russe des Affaires étrangères, en cas d'échec des négociations, la Russie prendra des mesures extrêmement dures et décisives pour contrer les menaces à ses frontières. La Russie et les États-Unis n'ont fait aucun progrès au terme des pourparlers de Genève. Les négociations entre les représentants américains et russes à Genève, au cours desquelles les conditions de conclusion d'un traité de sécurité ont été discutées, se sont soldées en vain pour la partie russe. Comme il ressort des données exprimées à la fois par les parties américaines et russes, les États-Unis ont complètement refusé de discuter de la question de la non-expansion de l'OTAN, ainsi que celle du refus d'admettre des pays comme l'Ukraine et la Géorgie dans l'Alliance, ce qui était une exigence clé de la Russie. Selon Sergei Ryabkov, pour le moment, le processus de négociation s'est terminé en vain pour la Russie. Cependant, puisqu'il ne s'agit que d'une réunion préliminaire, il faut tout d'abord suivre l'évolution des événements du 12 janvier. Nous avons terminé une journée et demie de discussion en déclarant que nous jugerons les prochaines étapes et perspectives de ce travail sur la base des résultats des événements à venir. Réunion entre l'OTAN et le CSCE. Après cela, cela deviendra plus clair. Y a-t-il une base pour offrir au leadership telle ou telle solution politique en faveur de la poursuite de ce processus, où nous devons déclarer avec regret que le groupe de l'OTAN a estimé qu'il était juste de rejeter notre initiative. Ensuite, la situation sera différente, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Les experts notent à leur tour qu'à la veille de la réunion, l'OTAN et les États-Unis tentent d'exercer une pression globale sur la Russie. Notamment, ce fut le cas des vols des avions de contrôle de frappe près des frontières russes, de l'apparition des drones MQ-9 Reaper. Près de la Crimée, il y a plusieurs heures, des bombardiers stratégiques B1B lancés de l'US Air Force ont été envoyés aux frontières de la Russie. Ce qui peut indiquer que les États-Unis sabotent le processus de négociation, bien que la Russie essaie de ne pas réagir à de telles provocations. Outre-Rhin, le maintien du parapluie nucléaire de l'OTAN remet sur la table la question du F-35E américain, un dossier qui tombe au mal, selon le général Jean-Vincent Brisset, au moment où la France prend la présidence du Conseil de l'UE. Analyse de Spoutnik. Encore un rebondissement dans le remplacement des Tornados de la Luftwaffe. Christine Lambrecht, nouveau ministre allemand de la Défense, aurait rouvert le dossier. L'objectif est de trouver un appareil apte à mener à bien la mission du parapluie nucléaire de l'OTAN, à savoir transporter la bombe stratégique B-61 que les États-Unis confie à certains membres européens de l'Alliance Atlantique. Pressenti depuis fin novembre et la publication de l'accord de coalition entre sociaux-démocrates, verts et libéraux, cette procédure remet le F-35 au cœur du jeu. En effet, si l'Allemagne s'était positionnée en avril 2020 pour l'achat de 45 FA-18 afin de les substituer à ces vieux Tornados, la validation au Bundestag de ce contrat d'achat avait été reportée au lendemain des élections. Or, les Américains ont profité de ce délai pour supprimer le FA-18 de la liste des appareils autorisés à transporter l'arme nucléaire, ne laissant de facto que le F-16 et le F-35 comme choix aux autorités allemandes. Dans la mesure où Berlin n'a jamais fait certifier l'Eurofighter pour transporter la bombe américaine, l'Allemagne n'a plus que deux options. La première possibilité entamait une procédure d'homologation au résultat incertain qui mettrait le pouvoir d'Outre-Rhin en porte-à-faux vis-à-vis de ses obligations au sein de l'OTAN. La seconde possibilité serait signée à acheter des F-35A, un choix qui n'est pas cornélien aux yeux du général de division aérienne Jean-Vincent Brisset. Le parapluie nucléaire est quelque chose qu'une grosse partie des électeurs allemands ne sont pas prêts à abandonner, souligne au micro de Spoutnik. Le chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques, Iris, c'est le Rafale ou le F-35. Il n'y a pas d'autre choix possible, estime-t-il. Difficile d'imaginer le Rafale l'emporter en Allemagne, fief de l'Eurofighter, d'autant plus que l'appareil français devrait également recevoir l'aval des autorités américaines pour transporter la B-61. Par ailleurs, techniquement, les arguments donnés par les Suisses tuent le Rafale, rappelle notre intervenant, c'est-à-dire l'intervenant de Spoutnik. Une allusion à la décision du Conseil fédéral suisse en septembre d'opter pour le F-35 en lieu et place du Rafale, de l'Eurofighter ou encore du FA-18. En peine à imaginer le maintien en service du Rafale ou de l'Eurofighter à l'horizon 2040 ou 2050, insiste alors le rédacteur en chef de la revue militaire suisse auprès de Spoutnik. Selon ce journaliste, la France, tout en cherchant à vendre des Rafales, se concentrerait déjà sur le développement de son remplaçant, le fameux SCAF. Bref, aux yeux du général Brisset, sur le plan purement technique, le F-35 serait donc le choix le plus pragmatique que l'Allemagne puisse faire afin de remplacer ces tornados. Malgré les critiques, le F-35 reste un appareil d'avenir, contrairement au Rafale et à ses principaux concurrents européens en fin de vie. Quant à la concurrence du SCAF, celle-ci est pour l'heure tout bonnement inexistante. Quoi qu'on fasse, même dans le meilleur des cas, le SCAF arrivera trop tard, insiste le géopolitologue. La capacité opérationnelle de l'appareil européen qui doit prendre la relève des Rafales et Eurofighter n'est prévue qu'à l'horizon 2040. Pour autant, tout n'est pas perdu pour la partie française qui porte le projet à bout de bras. Notre interlocuteur, c'est-à-dire l'interlocuteur de Sputnik, souligne qu'en matière de défense, les considérations purement opérationnelles cèdent souvent la place strictement politique. Or, d'après le site Avion Légendaire, ce sont les sociodémocrates du SPD, membres de la coalition actuellement au pouvoir, qui avaient obtenu en 2020 le report du vote au Bundestag sur l'achat d'appareils américains en remplaçant des tornados. D'ailleurs, le nouveau chancelier Olaf Scholz, lui-même issu des rangs du SPD, serait un fervent défenseur du SCAF, selon le site d'information aéronautique. Face au F-35, il reste donc une lueur d'espoir pour le programme français. Allemand. Cependant, au regard du calendrier politique européen, un désaveu de Berlin dans ce dossier éclabousserait directement Emmanuel Macron. Côté allemand, si les contreparties industrielles qui accompagnent généralement les contrats américains peuvent séduire, on lorgne également sur les transferts technologiques qui accompagneront le programme du SCAF. En février 2021, Angela Merkel avait créé la polémique en révélant publiquement les ambitions des industriels allemands à l'issue d'un conseil de défense franco-allemand. Aux yeux de l'ex-chancelière, le poids des Français dans le programme doit être réduit, une ligne dont ne démontre pas la Bundeswehr. Reste à savoir si les ambitions allemandes trouveront un écho dans la volonté française d'avancer à tout prix sur ce projet phare de l'Europe de la défense prôné par Paris.